Voilà, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir. Le sujet peut y prêter, hypnose et sophrologie. Et je pense qu'il est important de dire aussi que nous aspirons tous au repos, et à un vrai repos. On aspire aussi à la paix, et à être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, et puis pour ceux qui sont croyants, en paix avec le Seigneur. Donc, nous, cette aspiration à la paix, cette aspiration au repos, c'est une aspiration tout à fait légitime. La création, si l'on voit la Genèse, a été créée et le septième jour, Dieu se reposa. Et il nous invite à rentrer nous-mêmes dans ce repos. Jésus lui-même va dire « Venez vers moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est aisé et ma charge légère. C'est Matthieu au chapitre 11. Donc nous aspirons à ce repos et le Seigneur nous offre ce repos de manière toute particulière dans un cœur qui est plein de douceur et d'humilité. L'humilité, c'est aussi la première des béatitudes. Heureux, les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont dans cette perspective de l'humilité ont l'ouverture de ce royaume des cieux. D'autre part, la deuxième béatitude, c'est heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. La douceur nous offre cette terre promise, la douceur du cœur de Jésus, et son humilité nous ouvre au royaume des cieux. C'est ainsi que dans notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans cette perspective-là, je voulais le rappeler au départ, parce que ça, c'est notre fondement chrétien. Nous sommes invités au repos, dans la douceur et l'humilité du cœur de Jésus, qui nous ouvre des champs inattendu. Le royaume des dieux et cette terre promise. Chose inouïe, parce que quand on regarde la télévision en permanence, on n'est pas invité ni à l'humilité ni à la douceur. On a l'impression que ceux qui s'emparent de cette terre ne le font pas avec la douceur. Et pourtant, nous sommes persuadés dans la foi que la foi est un paradoxe qui nous entraîne progressivement dans ce champ du repos du Seigneur. Mais, comme notre monde est extrêmement agité et stressé, nous sommes tendus, tous tendus, nous allons chercher des méthodes et des techniques qui nous amènent le repos. Un certain nombre de techniques sont tout à fait intéressantes, objectivables. Et d'autres techniques nous entraînent dans des mentalisations. Nous le verrons, il y a des techniques à point de départ corporel, des techniques de relaxation, comme par exemple le training autogène de Schutz, à point de départ corporel. Très concret. On visualise ce que l'on fait avec un membre lourd. C'est très concret, c'est très corporel. Et puis, il y a des techniques qui impliquent plus une mentalisation. Notamment des techniques comme le training autogène de Schutz, nous y reviendrons. Parce que le training autogène de Schutz a été aussi une des bases de la sophrologie. Ce training autogène de Schutz procède par induction mentale. Nous ne sommes plus donc quelque chose de physique, mais également des projections mentales. Et donc le training autogène de Schutz s'apparente à toutes ces techniques qui sont plutôt des techniques inductives, mentales, et que l'on va retrouver, on peut dire aussi que le training autogène de Schutz, c'est une auto-hypnose. Donc vous voyez, vous avez des techniques de prise de conscience corporelle qui sont très concrètes et somatiques, et d'autres qui sont à point de départ mental et qui s'apparentent plus aux techniques que nous allons voir ce soir de sophrologie et d'hypnose. Bien que la sophrologie aussi procède d'une prise de conscience corporelle, et c'est le premier degré de la sophrologie. Mais il est important de savoir de quoi nous parlons exactement. Et l'hypnose est vieille comme l'humanité. Alors nous allons pas revenir tout à fait au départ de l'humanité, mais vous savez que dans les religions à mystère, ou vous ne savez peut-être pas, mais dans les religions à mystère, ou dans les mystères qu'il y avait antiques, que ce soit en Égypte ou dans la Grèce ancienne, on procédait aussi par initiation de type hypnotique. Donc le grec hypnos, hypnose vient du grec hypnos qui veut dire sommeil. Hypnos était le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Selon la définition du grand dictionnaire encyclopédique Larousse, l'hypnose est un état artificiel provoqué par une suggestion. Donc vous voyez, on est dans une induction mentale qui se caractérise par une sensibilité accrue à l'influence de l'hypnotiseur et à la diminution de la réceptivité aux autres influences. Donc on va être induit dans un champ de conscience qui va être limité par l'induction que va faire l'hypnotiseur. Dans un premier temps, Caicedo étudia la pratique de l'hypnose. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir quelques éléments de cette histoire pleine de controverses. Et nous le verrons. De l'hypnose, cette histoire de l'hypnose pleine de controverses, à partir de Mesmer, notamment au XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du baril de Mesmer, mais c'est là où on parle aussi du magnétisme animal. Et donc, je reviens à Caicedo. Après ses voyages en Orient, Caicedo préférera dire que sa méthode est inspirée des pratiques qu'il a expérimentées là-bas, donc les pratiques zen, tibétaines, etc., et les trouvant plus rapidement efficaces. Mais nous allons voir que Caicedo, qui était un psychiatre d'origine colombienne, qui a fait ses études à Barcelone. Sa femme était une praticienne extrêmement fervente du yoga, donc il a été extrêmement influencé par donc, les techniques qui viennent de l'Orient. L'hypnose, longtemps associée au magnétisme, est connue dans la plus haute antiquité. C'est ce que je disais tout à l'heure, les religions à mystère de l'Égypte et de Grèce les utilisaient à des fins thérapeutiques ou initiatiques. Vous voyez, il y avait les deux aspects. Les vapeurs intelligentes et oraculaires de Delphes nous ont été décrites par Plutarque, entre autres. Nos druides, hein, on en parlait aussi la semaine dernière, hein, nos druides et les chamans, hein, utilisent aussi des procédés qui induisent des états modifiés de conscience à effet cathartique. Il y a tout un aspect de catharsis à travers ça. Aujourd'hui, eh bien, c'est un état modifié de conscience où on rentre dans une transe personnelle ou collective. Et qui est cet effet cathartique à une finalité qui serait guérissante. Comment ? Cathartique. Eh bien, j'en viens de donner la définition. Alors, donc, comment ? Vas-y.
Non, c'est maïotique, je comprends pas.
Non, cathartique, c'est l'effet qui permet de rentrer dans un état modifié de conscience à des fins thérapeutiques ou initiatiques, si vous voulez. C'est un état, on pourrait dire, de transe, si vous voulez. Donc aujourd'hui, des charters entiers sont organisés pour vivre des initiations chamaniques, ou dans des conditions, vous l'avez vu parfois, j'ai eu des émissions là-dessus, limite de jeûne et d'hygiène, on ingurgite des substances hallucinogènes comme l'ayahuasca, nous en avons parlé aussi mercredi dernier, donc vous voyez, c'est pour rentrer, alors là, cette fois-ci, de manière provoquée, dans ces états modifiés de conscience, pour avoir des expériences hors limite habituelle. Mais ce n'est qu'à partir de Mesmer, grand occultiste et grand franc-maçon, que l'on trouve des études rationnelles et scientifiques autour de la question du magnétisme, de l'hypnose et de ce qu'on pouvait nommer à l'époque somnambulisme magnétique. Mesmer naquit en 1734 en Souabe et son père voulut qu'il fût moine. Sa vie monastique fut de courte durée, il s'en échappa assez rapidement pour rejoindre Vienne où après quelques études de droit il s'orienta vers la médecine. Et ce n'est qu'à 32 ans qu'il passa sa thèse sur l'influence des planètes sur le corps humain. Déjà, vous voyez, l'influence des planètes, zodiaques, etc., on rentre dans une sphère qui est limite sur le plan vraiment scientifique, mais qui aujourd'hui fait florès, hein, quand on voit le nombre d'ouvrages sur le zodiaque, etc. Et puis aussi les influences de signes zodiacaux sur des parties du corps. Il voulut y démontrer, Mesmer, l'existence d'un corps subtil provenant du cosmos et pénétrant dans tout le corps. On pourrait peut-être parler de corps astral. Il nomma cette force, cette énergie, dirions-nous aujourd'hui, dans la mouvance du New Age, magnétisme animal. À cette époque-là, il parle de magnétisme animal. Il travailla également sur les influences bénéfiques que pourraient avoir les aimants minéraux sur la santé. Attention, quand on parle de magnétisme, il est deux sortes de magnétisme. Il est un magnétisme minéral quantifiable en Gauss. Hein, quand les Japonais ont retrouvé l'usage des petits aimants, si vous voulez, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas ce contentieux que les médecins français avaient pu avoir contracté à la suite de Mesmer. La médecine française avait balayé Mesmer parce qu'on verra plus loin combien il avait été tous azimuts. Donc on n'utilisait même pas le magnétisme minéral. Or, les Japonais se sont rendus compte que le magnétisme minéral, donc avec des aimants, pouvait avoir des effets d'anti-inflammatoires et également de décontracturants. Donc nous ne parlons pas de la même chose quand nous parlons du magnétisme minéral et quand nous parlons du magnétisme animal. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Il travailla donc également sur les influences bénéfiques que pouvaient avoir les aimants minéraux sur la santé. Plus tard, il prétendra que par l'imposition des mains, donc le magnétisme animal, c'était plus efficace que les aimants. Je suis toujours à Mesmer. Mais ces expériences et ces succès thérapeutiques furent toujours troubles, parfois objet de scandale. C'est assez curieux, vous voyez que ces gens qui ont été dans ces sphères limites de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la médiumnité, ont tous eu des trucs assez bidouillants sur le plan de leur comportement relationnel. En fait, l'efficacité de ces CD s'exerçait essentiellement sur des sujets à tendance hystérique. Les médecins viennois, ulcérés par Mesmer, qui prétendait tout guérir, l'obligèrent à liquider tous ses biens et à partir. C'est ainsi qu'il arriva à Paris. Son succès fut d'emblée considérable. D'une pratique strictement individuelle, il dut passer à des thérapeutiques de groupe. Il utilisa l'imposition des mains ou l'imposition de baguettes de fer ou de verre qu'il magnétisait. On retrouve ça hein, chez les magnétiseurs. Ils vont vous magnétiser du coton, des trucs et des machins. Vous voyez, donc, voilà. Eh bien, nous avions déjà ça avec Mesmer. Il forma son valet, qui devint son assistant, et inventa son fameux baril, le baril de Mesmer, qui permettait de soigner plusieurs personnes à la fois. Ce baquet était chargé de bouteilles contenant de l'eau magnétisée. Une extrémité d'une baguette de fer touchait l'eau qui remplissait le baquet, tandis que l'autre extrémité était appliquée sur la partie malade des personnes qui entouraient le baquet. Vous voyez le truc. Donc la mise en conditionnement, avec tout un scénario autour de cette histoire-là. Une corde reliait toutes ces personnes et permettait prétendument d'établir l'harmonie du fluide. Donc vous voyez le truc. Dans une ambiance donc très particulière, chacun attendait le miracle. Mesmer avait le sens de la mise en scène. Il arrivait après s'être bien fait attendre, en habit de soie lilas, impassible, hiératique, tenant une longue baguette tandis que jouait un piano ou un harmonica. Des scènes d'hystérie ou de convulsion s'ensuivaient. Des personnes, surtout des femmes, se prétendaient guéries, tant et si bien que Mesmer devint la coqueluche de tout Paris, jusqu'au marquis de Lafayette, le prince de Condé et même la reine Marie-Antoinette qui fréquentait donc ces histoires-là. Mesmer voulut convaincre médecins et scientifiques du bien fondé de sa méthode. Le roi Louis XVI, intrigué par ce battage, initia deux commissions d'enquête. L'une comportant des médecins prestigieux. Il y avait Guillotin dans les médecins prestigieux. Hein, le gars qui a inventé après la guillotine. C'était plus efficace encore que le baril de Mesmer. Et des scientifiques de grand renom comme Franklin, vous savez, les histoires du paratonnerre, Bailly et Lavoisier. Donc vous voyez, on est là dans du haut de gamme scientifique hein, qui était attiré par cet aspect. Donc c'était vraiment des gens qui avaient une rigueur protocolaire scientifique qui se sont intéressés à ça. Donc l'autre uniquement, une commission d'enquête uniquement avec des médecins prestigieux membres de la Société royale de médecine. C'est dire le retentissement que prirent ces affaires dans les années 1780, donc juste avant la Révolution. La première commission déclara qu'effectivement il y avait des manifestations, mais aucune objectivation du magnétisme animal ne pouvait être prouvée. Donc vous voyez, il se passe des choses, mais nous ne pouvons pas dire rigoureusement et scientifiquement si ces choses-là sont le fait même de quelque chose d'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que ce n'est pas de l'induction mentale qui provoque toutes ces choses-là? Voilà. De plus, Bailly précisait, les attouchements, l'action répétée de l'imagination pour produire les crises peuvent être nuisibles. Le spectacle de ces crises est dangereux, que par conséquent, tout traitement public où les moyens du magnétisme sont employés ne peut avoir à long terme que des effets funestes. Et la deuxième commission concluait, les effets produits par ces prétendus moyens de guérison sont tous dus à l'imagination ou à l'effet mimétique, l'imitation réciproque. Mesmer était furieux, il dut à nouveau foutre le camp. Et il se retira à Merzbourg, au bord du lac de Constance, où il mourut en 1815. Mais Mesmer, avant la Révolution française de 1789, avait fait des adeptes, notamment le marquis de Puységur. Alors là, nous retrouvons aussi des gens qui ont fricoté avec l'hermétisme, l'occultisme, etc. Éminent maréchal de camp. Celui-ci remplaça le baquet par un arbre. Donc, ils se mettent autour, et des cordes suspendues aux branches enroulées autour des corps des patients étaient censées distribuer le fluide vital guérisseur. Vers 1784, ils découvraient que l'on appelait ce que l'on appelait à l'époque l'état somnambulique, état induit par les suggestions de l'initié. Vous voyez ? Donc, vous voyez le fil. Nous sommes là à essayer de comprendre les racines du processus de suggestion. Voilà. Puis Ségur observa que certains de ses patients, mis en état de somnambulisme, étaient en mesure de deviner leur propre pathologie. Les lieux de souffrance des personnes qu'ils touchaient, ou auxquels on leur suggérait de penser, et même de définir les traitements qui conviendraient. Il fut le premier à parler de clairvoyance dans ces cas-là. Les très nombreux disciples du marquis de Puységur répandront cette nouvelle forme de mesmérisme où ce n'était plus l'hypnotiseur, mais l'hypnotisé, non plus le magnétiseur, mais le magnétisé qui devenait l'oracle. Vous voyez ? Plus besoin même de... Voilà. Ensuite, je voudrais peut-être abréger toute cette partie historique, mais pour dire que nous avons eu en France plusieurs écoles d'hypnose, mais qui se recommandent d'une certaine manière de cette filiation-là. Je vais, pour avancer un petit peu, ne pas parler enfin, de l'intermédiaire entre Mesmer et ses successeurs immédiats et donc la période, mais ça c'est intéressant parce que en France, il y a deux écoles à cette époque, au début, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a l'école de Nancy, avec le docteur Liébeau, il va reprendre les recherches sur l'hypnose en insistant sur l'importance de la suggestion. Et le docteur Bernheim suivra de près l'approche du docteur Liébeau et contribua à le faire connaître dans le milieu médical. Voici ce qu'il en disait. Il endort par la parole. Il guérit par la parole. Il met dans le cerveau l'image psychique du sommeil. Il cherche à y mettre l'image psychique de la guérison. La suggestion peut en effet réaliser soit de la douleur, on peut suggérer un effet douloureux, soit de l'anesthésie, des contractures, de la paralysie. Et elle peut créer aussi cette suggestion toutes sortes de troubles fonctionnels. Voilà. Puisqu'elle est capable de neutraliser une douleur réelle provoquée expérimentalement, il est très probable qu'elle peut neutraliser les phénomènes douloureux provoqués par la maladie. Et nous en sommes là. Donc, avec cette école de Nancy, Liébeau et Bernheim contribuèrent à la renommée mondiale de leur école avec leurs recherches plus rigoureuses que celles menées à la Salpêtrière à Paris, ne voyant dans ces états modifiés que des manifestations hystériques. Donc vous voyez, l'école de Nancy ne prend plus ça comme de l'hystérie, mais comme une... et commence à élaborer des protocoles. Voilà. Cependant, le docteur Liébeau croyait toujours à une force magnétique animale agissant indépendamment de la suggestion. Donc c'est voilà, il y a eu des querelles entre eux. Nous avons aussi le docteur Charcot. Le docteur Charcot, dont vous avez une représentation tout à fait intéressante à la Salpêtrière, où vous avez une femme qui se pâme devant un aéropage de... Voilà, eh bien, ce sont des séances d'hypnose. Avec une femme donc hystérique hein, qui était là et qui... Voilà, Freud a assisté. Hein, il était présent à ces séances-là. Le docteur Charcot avait acquis une réputation internationale grâce à ses travaux de neurologie basés sur une recherche clinique rigoureuse et une anatomopathologie. Donc Charcot était vraiment quelqu'un d'extrêmement rigoureux sur le plan scientifique. Mais là, il s'est laissé un peu déborder par l'aspect un peu spectaculaire de ces... Voilà. Intéressé par la philosophie et toutes les sciences humaines naissantes, il fut séduit par les recherches sur l'hypnose à partir des années 1880. Donc il supervisait ses travaux à la Salpêtrière et jouait de sa notoriété pour diffuser les résultats obtenus sans vérifier la rigueur des expérimentations devant un public de profanes, d'hommes politiques, de journalistes. Vous voyez, c'était le truc un peu mondain hein, de Paris, comme on aime de temps en temps voir à la télévision le dernier cri voilà, de personnes qui sont mentalistes ou autres aujourd'hui. Hein, voilà. Donc vous voyez, cet aspect spectaculaire-là entrave d'une certaine manière la rigueur d'un protocole scientifique autour de ces questions, à partir du moment où on crée une ambiance. Le grand professeur Janet, père de la psychopathologie contemporaine, dénonça ses prestations de foire, héritière des lucubrations de Mesmer. Charcot, à la fin de sa vie, se rendit compte du peu de fondement objectif de ses recherches sur l'hypnose. Sigmund Freud fut attiré par le bruit que l'on faisait du côté de la Salpêtrière et il vint passer 6 mois au service de Charcot avant de commencer ses histoires sur la... Puis il passa l'été 89 à Nancy pour y rencontrer Bernheim et Liébeau. Donc le père de la psychanalyse s'est beaucoup intéressé à ces aspects-là. Freud se rappela l'histoire vécue par le docteur Breyer, neuropathologue viennois, qui avait hypnotisé une malade, Bertha Pappenheim, belle, jeune, jolie tant qu'à faire, hein, mais anorexique et hystérique, présentant de multiples autres symptômes. Sous transe hypnotique, elle révéla les émotions qui étaient à l'origine de ses troubles, ce qui lui permit ensuite de mieux vivre. Breyer venait de découvrir le mécanisme de refoulement grâce à l'abaissement du niveau de conscience. C'est ce qu'on va retrouver en sophrologie ou en hypnose. Eh bien, grâce à cet abaissement de niveau de conscience provoqué sous hypnose, des souvenirs refoulés émergeaient. Cependant, un peu plus tard, Breuer rendit visite à sa patiente qu'il croyait guérie. Celui-ci lui fit une déclaration d'amour des plus démonstratives. De plus, elle montra tous les signes d'une grossesse qui était le fruit de son imagination. Le phénomène de transfert si important dans la psychanalyse allait être élaboré suite à cette observation. Vous voyez, les processus de transfert et contre-transfert. Donc vous voyez, attention à notre imagination qui croit à un résultat assez immédiat, assez spectaculaire, où la personne dit qu'elle se sent mieux, et finalement, avec un peu de recul, quelques mois ou quelques années plus tard, on s'aperçoit que la problématique n'a pas été du tout résolue. Donc, c'est une question aussi très profonde sur le plan thérapeutique, quand on est thérapeute, d'examiner le résultat non seulement dans l'immédiateté des effets produits, mais également dans la durée. Voilà. J'y vais hein, un peu plus rapidement, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à l'hypnose et à la sophrologie, mais vous voyez que c'est intéressant d'avoir aussi cet aspect historique. Qui n'a pas entendu parler de Coué, hein, de la méthode Coué, hein, c'était... Alors, au début du XXe siècle, Il y avait Émile Coué qui était un pharmacien nancéen. Il s'intéressa lui aussi à l'hypnose et suivit les cours de l'école nancéenne donnée par Liébaud, le docteur Liébaud dont nous parlions tout à l'heure. Sa désormais célèbre méthode Coué se répandue dans tout le monde occidental. Il fut reçu à New York avec les honneurs d'un libérateur. C'était, vous savez, avant l'heure, hein, la pensée positive. Hein. On voit ça, les Américains sont très très friands hein, de la pensée positive. La pensée positive qui va modeler la réalité de manière positive. Avec, on va devenir jeune, beau, riche et intelligent tant qu'à faire. Il suffit de se formater l'esprit en disant « je suis beau, riche, voilà ». Et vous voyez, mais quelque part, il y a quelque chose de fonctionnel là-dedans. Il suffit de s'en persuader et quelque part, il peut y avoir un aspect opératoire. Vous voyez. Donc voilà. Alors, en sophrologie, il n'est pas fait référence à l'hypnose ericksonienne, parce qu'il faudrait aussi parler de l'hypnose ericksonienne, c'est celle qui est pratiquée la plupart du temps dans les hôpitaux, ou qui est, voilà. Parce que cette hypnose ericksonienne, qui a été fondée par Erickson lui-même, est plus rigoureuse sur le plan du protocole d'action. Mais c'est assez curieux que Caicedo ne parle pas d'hypnose ericksonienne. Il y a une concurrence dans ces grands fondateurs de nouvelles thérapies qui est assez étonnant, hein, parce qu'il aurait très bien pu parler de Caicedo, Caicedo aurait très bien pu parler de l'hypnose d'Erickson, mais il n'en parle pas. Voilà. Pourtant, il y a une vraie parenté. Et puis, il y a aussi une parenté avec une autre technique, mais on ne va pas mélanger les plans, mais qui est la PNL, la programmation neuro-linguistique. Il y a des ramifications avec cela. La programmation neuro-linguistique dont nous avons parlé, je crois, l'année dernière, donc, voilà, avec Richard Bandler et John Grindler. Voilà. Si l'efficience, et je voudrais en arriver là, à cette première partie, si l'efficience de l'hypnose n'est pas à remettre en cause, parce que nous, aujourd'hui, il y a des opérations qui se font sous hypnose, hein, mais vraiment, on peut opérer des choses parfois extrêmement... cataractes et plein de choses, même des choses plus sanglantes, hein, c'est étonnant, hein, les travaux. Oui, c'est ça. Et à Caen, il y a tout un service qui travaille sur ces questions-là. Il y en a plusieurs CHU aujourd'hui qui travaillent sur ça. Il est très regrettable qu'un travail épistémologique sérieux ne soit que très insuffisamment initié, compte tenu de tous les antécédents sulfureux que nous venons de voir. Qu'est-ce que c'est que l'épistémologie ? C'est d'essayer de réfléchir et de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que l'on fait pour essayer de voir si c'est licite sur le plan moral, s'il n'y a pas d'autres implications à long terme, si on n'est pas en train de couvrir certaines choses dont on ne veut pas entendre parler, c'est ouvrir le champ du questionnement. Or, ma fille est en médecine, et une de ses meilleures amies est sage-femme, et a fait son mémoire sur l'hypnose. L'hypnose pour accompagner les personnes pour accoucher. Il y a des choses tout à fait intéressantes, la prise de conscience corporelle, et je crois que vraiment cet accompagnement des femmes enceintes, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Cependant, dans son travail sur l'hypnose, il n'y avait qu'un aspect purement pratico-pratique de savoir si ça fonctionnait ou pas, et avec quelle femme, ou voilà. Aucun travail n'avait été fait sur le plan de qu'est-ce que ça peut engendrer, quelles conséquences ça peut avoir. Donc vous voyez, l'étude approfondie des origines historiques de l'hypnose, elle a fait son mémoire, elle n'a absolument pas creusé sur l'origine historique de l'hypnose, vous voyez, avec toutes ces tendances, etc. Le travail était uniquement fait pratico-pratique, est-ce que ça marche ? Donc, attention de ne pas valider des approches qui peuvent être séduisantes, mais qui pourraient entraîner des effets secondaires non immédiatement visibles. Il est des analyses basées sur des interrogatoires rapides du ressenti des personnes ayant été mises sous hypnose, toutes satisfaites sur le coup, qui ne cherche pas à moyen et long terme des paramètres comportementaux plus subtils, par exemple une certaine indifférence relationnelle et une dépendance à l'égard de ce type d'approche. Vous voyez ? Parce que ce que je crois, mais c'est une hypothèse, mais je la livre, dissocier le soma du psyché n'est pas, à mon avis, neutre. Dissocier le ressenti dans notre corps de la psyché, créer un espace entre les deux, ne de plus ressentir avec notre corps, l'interrogation pour moi, c'est que quand on provoque cette dissociation somato-psychique, n'entraîne-t-elle pas d'autres types de dissociation, de type relationnel ou de type d'indifférence relationnelle? La suppression de la douleur existe depuis des temps immémoriaux, mais elle est pratiquée précisément dans ces perspectives initiatiques, et je ne veux pas rouvrir des procès en sorcellerie, mais un des critères qu'avaient les juges dans les procès en sorcellerie, c'était que les sorcières étaient rigoureusement insensibles à la douleur. On pouvait leur mettre les mains dans des trucs d'huile bouillante, etc. Elles ne ressentaient rien, vous voyez. Alors, c'est dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement que cette insensibilité à la douleur? On va retrouver ça chez certains chamans, dans des états modifiés de conscience, par rapport aux brûlures. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre incarnation qui est en même temps somatopsychique, enfin qui est globale? Si nous dissocions, est-ce que nous n'entraînons pas d'autres types d'indifférence? Et peut-être, et c'est une question que je me pose, à force de rentrer dans des techniques qui sont des techniques de mentalisation, n'entraîne-t-on pas effectivement un bien-être apparent, un mieux-être apparent, une certaine quiétude, mais qui nous rend d'une certaine manière indifférents à la vie du monde et à la vie de l'autre, et à la vie de mon frère? Voilà. C'est une question. J'en suis là, hein, au niveau de cette question. Voilà. D'autre part, sur le plan éthique, la mise en dissociation somatopsychique d'une personne n'entraîne-t-elle pas des distorsions donc dans sa vie affective, voire, et là je parle en tant que chrétien, de sa vie spirituelle? Je voudrais relater quelque chose que j'ai dit mercredi dernier, mais ça m'a tellement marqué. J'ai un prêtre qui est décédé, qui avait 90 ans, et j'aime bien lui faire raconter cette histoire, parce que pour moi elle était très saisissante. Il disait que sa maman, quand le papa est décédé, eh bien, sa maman lui avait dit « Je ne donnerai pas ma peine pour toutes les joies du monde. » Il y a là, vous voyez, une intégration existentielle de la réalité de la vie d'une personne décédée, si vous voulez, et il n'y a pas essai d'échapper à ce réel, si douloureux soit-il, parce que quelque part, cette réalité existentielle nous fait gagner en humanité. Est-ce que je suis clair? Donc, attention à des méthodes qui créeraient des distorsions par rapport au mal-être du monde, parce que ce mal-être, quelque part, est constitutif de notre humanité, de notre incarnation et de notre potentiel vie fraternelle, à l'intérieur même de l'épreuve. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement profond, et c'est une des questions que je me pose par rapport à ces techniques-là. Vous voyez ? Voilà. On pourra peut-être en reparler, hein. Voilà.